Le grand sujet des artistes, ce n'est pas l'art. L'art, ils se débrouillent très bien avec. Ils n'ont pas d'inquiétude avec lui. Et moins ils s'extasient d'en pratiquer un, meilleur ils sont en général. Les artistes s'intéressent plutôt à des questions techniques. À quelle hauteur accrocher un tableau? Quel adjectif il faut anteposer? À quel moment couper le plan? Et quand deux artistes rencontrent, ils ne parlent que d'argent. Façon élégante d'éviter les questions qui fâchent et de subtilement se demander comment d'autres qu'eux, avec un mauvais goût si évident ou des choix esthétiques si discutables, arrivent aussi à vivre de leur art. Mais le grand sujet des artistes, ce n'est pas l'art, ce sont les artistes ratés, ceux à qui ils savent que leur existence, leur réussite, leur nonchalance même à exercer leur don, fait un mal absolu. Car la question pour un artiste, ce n'est jamais celle de sa place dans la société, place qu'il sait prendre en général, comme le moindre de ses talents, c'est plus secrètement la place qu'il arrive à accorder dans sa cité idéale, à ses sombres caricatures de lui-même, à ses mauvais poètes, qu'il se doit à tout prix de chasser de la cité, et ce faisant, il sait le mal qu'il leur inflige. Un artiste authentique, c'est quelqu'un qui se sent intimement redevable de l'existence d'Hitler. Les meilleurs romans de Balzac sont des portraits sévères et tendres d'artistes ratés, comme Rubempré dans Les Illusions perdues ou Venceslas dans La Cousine bête. Le personnage qui provoque le plus d'empathie dans La Recherche du temps perdu, c'est Swann, resté comme un enfant malheureux à l'état d'esthète raffiné. Il y a aussi un vieux film d'Assayas qui raconte merveilleusement cela. La détresse que ressentent les artistes face à leurs cousins maudits, les artistes ratés dont ils ne savent pas que faire et dont la mélancolie les interpelle en vain. Dans fin août, début septembre, Assayas met en scène un duo d'amis profondément juste, interprété par Amalric Écluzet, le premier jouant un inspirant intellectuel qui finira chef de rubrique au Quid ou à l'Encyclopédia Universalis, l'autre, un romancier en apparence mineure, qui mourra prématurément et dont son ami découvrira sur le tard, en accueillant dans son bureau un étudiant qui le lit encore avec ferveur, que son œuvre comptera peut-être, plus qu'il l'avait cru, dans une histoire littéraire dont il a désormais la charge, un peu cruelle, de tenir l'intendance. Il n'y a rien de plus émouvant que le visage et les yeux d'Amalric à cet instant où le destin lui joue un dernier tour, où le fantôme de son ami vient le torturer dans son petit bureau d'intellectuel, c'est atrocement jubilatoire. Le charme et la cruauté du film d'Assayas tient aussi au moment où il a été tourné, à la toute fin des années 90, dans les dernières années de la civilisation du papier. Le revoir aujourd'hui rajoute un gag supplémentaire et enfonce un peu plus le pauvre Amalric, qui reste dans mon souvenir l'un des meilleurs éditeurs qu'on ait vu dans le cinéma français qui en consomme tellement que c'est devenu un personnage à part entière avec le mari trompé et l'amant. C'est justement en tant que mari trompé, en tant qu'amant et en tant qu'éditeur qu'Assayas vient justement de ressusciter la mélancolie d'Amalric dans son dernier film Double vie, à ceci près que le rôle est repris par un Guillaume Canet à peu près du même âge. À la façon des cocktails que filmait génialement Guitry autrefois, en passant au milieu des invités avec sa caméra liquide, enregistrant les bons mots les uns après les autres, Assayas balaie en un ou deux dîners et en quelques répliques inquiètes ou définitives les 20 ans qui séparent les deux films, de l'évolution du livre au triomphe des fake news, de l'apparition des e-books à la crise de la démocratie. Mais la chose est trop scolaire et caricaturale pour porter vraiment, et on s'aperçoit très vite que le sujet du film n'est pas là, mais dans la rassurante constance du marivaudage. Il faut que tout change pour que rien ne change, c'est la clé du film, et même Canet reconnaît qu'elle est un peu usée et que son auteur, interprété par un excellent Macaigne, se répète. Cela faisait 20 ans que je n'avais pas aimé un film d'Assayas, et j'admets qu'il m'a bien eu, parvenant à me faire croire qu'il était devenu l'un de ces artistes ratés qui dissertent sans fin sur le déclin de l'art, que pour mieux faire valoir son retour réussi au classicisme.